Philippe Bosmans, comment s'est fait la rencontre d'une pièce comme Au Monde? Ce n'est pas évident. Comment on peut trouver la dimension opératique? Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec des metteurs en scène, Luc Bondy. La notion de dramaturgie est chez vous très importante dans tous les opéras que vous construisez.
Oui. C'est-à-dire, ce que je voulais faire, moi, ne plus travailler sur des pièces du grand répertoire, mais un peu culte comme Julie, etc. Et j'avais envie de travailler avec un auteur d'aujourd'hui. Et j'avais entendu parler de Pommerat, j'avais vu un spectacle que je trouvais formidable. Et puis j'ai lu une dizaine de pièces de lui. Et puis je me dis, Au Monde, au fond, c'est peut-être celle qui conviendrait le mieux pour un opéra. Parce qu'il y a dans la pièce, il y a tous les archétypes vocaux aussi. Il y a une famille, une basse qui est le père, trois sœurs, donc trois voix différentes. Et aussi le fait que ça se passe dans un milieu, milieu clos, donc une maison, une famille. Beaucoup de pièces de Pommerat se jouent avec le monde de la délinquance aussi, ou des gens complètement borderline, qui sont plus difficiles à traiter à l'opéra. Ici, j'ai des gens bien élevés. Enfin, soi-disant bien élevé, mais qui pète parfois les plombs, mais pas toujours. Donc, j'ai demandé de voir Pommerat. À la Monnaie, on a organisé une rencontre, et il était très pour le fait qu'on fasse un opéra. Et alors, j'ai dit, Au Monde, me semble-t-il, la pièce qui correspond le mieux. Il m'a dit, oui, tout à fait. Il m'a dit, je ne demande pas mieux qu'on fasse un opéra avec cette pièce-là. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, on s'est vu beaucoup, on a beaucoup travaillé sur le livret. Pendant tout le processus de la composition, j'étais toujours en contact avec lui. Puis il fallait réduire évidemment la pièce sans la trahir. Et j'étais en bonne compagnie parce que c'était l'auteur. Lui-même, il était l'auteur. Les autres pièces où on faisait des livrets, c'était avec Luc Bondy. Et il travaillait sur des auteurs qui sont plus là. Mais ici, j'avais la chance d'avoir quelqu'un avec lequel je pouvais travailler sur le sens caché des phrases, sur le ton à prendre éventuellement. Mais il m'a laissé aussi très, très libre quelque part. Parce que quand on compose un opéra, le compositeur, il est maître de beaucoup de choses. Il est maître du temps et du ton. Le ton sur lequel il y a mille façons de se fâcher. On peut se fâcher en criant, on peut se fâcher doucement aussi. Donc ça c'est le travail du compositeur. Ça.
Une autre question sous-jacente, est-ce que l'opéra c'est aussi une typologie de voix?
Oui, je crois que ce que j'ai toujours fait, c'est essayer de faire des opéras et pas un espèce de théâtre musical. Un opéra avec les moyens de l'opéra, avec une fosse d'orchestre, etc. Avec, pas ici, mais avec les chœurs sur scène et pas au balcon. J'aime bien travailler à l'intérieur de la convention, de ce qui existe. La première idée que j'ai eu quand j'ai lu la pièce. J'ai pensé à une couleur générale. Pour moi, il fallait une couleur de deuil, quelque part. C'est drôle. Moi, j'entendais du deuil dans cette pièce. Une cérémonie de deuil, quelque part. C'était un peu ma première idée. Et aussi le fait qu'on est dans une famille de gens bien élevés. Et je voulais faire une musique bien élevée, une musique de bonne famille, mais qui parfois pète les plombs. Pour pouvoir brusquement sortir du cadre de la politesse, il fallait qu'il y ait une musique de politesse, parce que sinon on ne sait pas la changer. Donc la base doit être ça. Si on écrit une musique qui est complètement déstructurée quelque part, on peut plus faire ça. C'est le problème de la tension et de la détente dans le discours musical et théâtral, je veux dire. Hein.
Quelle est cette typologie qui vous a semblé évidente en commençant l'écriture?
La voix la plus grave qui est le père, la basse, donc c'est la basse de l'opéra quelque part. Avoir trois filles, donc deux sopranos, une plus légère, une plus lyrique, et une mezzo pour faire la fille plus âgée. Donc c'est quelque part des stéréotypes, hein, mais je trouve que c'est bien de les garder. Un ténor qui est le mari, donc cet homme qui veut reprendre les affaires de la famille et qui s'est sans doute marié pour ça. Parce qu'il semble pas qu'il y ait de l'amour entre lui et sa femme, qui est lui un espèce de jeune véral qui tient un discours toujours positif. Le frère aîné, qui est un homme un peu normal, comme disait Hollande, un homme normal, un homme déjà âgé de 60 ans, aussi un baryton. Et puis il y a ce personnage étrange qui est le frère, qui est Horry, qui a été chanté à Bruxelles par Stéphane Degout, qui lui n'était pas disponible parce qu'en ce moment il fait PDS à Garnier. Et on a trouvé un très jeune baryton canadien, Philippe Sly, qui le remplace très bien. C'est autre chose, parce que Joël Pommerat a dû retravailler aussi, parce que il adapte sa mise en scène aussi à la personne. Et lui a l'air d'un jeune Marines tout frais, un peu trop joli. C'est ça ça intéressait beaucoup Joël, parce qu'il dit, il a vraiment pas l'air d'un serial killer. Donc c'est donc plus intéressant quelque part, parce qu'il a un visage un peu de poupon et il pourrait sortir d'une série américaine, genre Beverly Hills ou un truc comme ça, une série télévisée. La pièce est un peu comme il y a 20 scènes, c'est comme c'est comme une série télévisée en 20 épisodes comme ça, ce qui pourrait s'appeler Secret de famille. Je suis sûr que ça existe. Sauf que ce serait plutôt comme une série pour intellectuels, c'est pas une série people.
Ça m'a fait penser aussi quand même au dernier de Visconti.
Oui, tout à fait, oui. Joël m'en a parlé aussi d'ailleurs. Joël a vu ce film il n'y a pas longtemps, il n'avait pas vu. Il n'avait pas vu les derniers, et quand il a vu les derniers, il m'a dit, est-ce que tu connais les derniers? Ben, oui, bien sûr, je connais les derniers. C'est, je trouve, un des meilleurs films de Visconti pour moi.
On a l'impression d'être devant la famille Krupp.
La sidérurgie. Ici, ce ne serait même pas la bourgeoisie, c'est les gens, les milliardaires, c'est encore autre chose. Ce n'est pas la bourgeoisie 19e, hein, c'est les gens immensément riches, je veux dire.
Et c'est une transmission d'héritage. Le père sait qu'il veut transmettre, le militaire est un peu le fils prodigue.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et ce qui est en plus le plus étrange et aussi le plus normal, c'est que le beau-fils pousse aussi le fils à accepter, parce qu'il sait bien qu'il ne sera pas capable, parce qu'il perd la vue et puis est complètement parti autre part. Il n'a pas envie de ça, donc il le pousse pour pouvoir prendre le pouvoir. Et on peut croire qu'il s'est marié pour ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus d'amour avec la femme. Et pour le mari, il fallait un ténor, il fallait un petit roquet comme ça qui tient ses discours toujours positifs.
Et quand vous parlez de cérémonie funèbre, effectivement, on a en même temps une des sœurs qui s'appelle Fête, qui est une sœur supplétive.
En plus, ils ont choisi un enfant qui ressemble à l'enfant qu'ils ont perdu. Et on ne sait pas comment cet enfant a été perdu, mais on ne sait pas non plus ce qu'était la petite avant. Parce que d'où vient-elle? Elle a l'air complètement perturbée. Aussi, elle a l'air perturbée parce qu'on lui dit toujours, tu ressembles tellement à notre sœur, tu es la même, etc. C'est vraiment terrible pour un enfant, pour un adolescent qui cherche son identité et qui est une fille qui dit, moi, j'ai envie de devenir pute, moi, voilà. Donc, en fait, c'est une adolescente aussi.
Il y a une femme qui est enceinte. On ne sait pas d'où elle vient, légitime, illégitime.
Oui. À la fin, elle dit, je ne sais même pas qui est le père. Et c'est une... comment dirais-je, c'est un rôle intéressant, le rôle de cette sœur aînée qui est un peu, elle est un peu quand même l'anarchiste de la famille, si on peut parler d'anarchiste dans ce milieu-là, mais elle est un peu celle qui se sent libre, qui n'a. Et il y a aussi dans la pièce l'inceste. L'inceste est plus montré à l'opéra que dans la pièce. Et ça, c'est Joël qui disait, oh, avec la musique, je peux me permettre des choses que je n'oserais pas faire au théâtre. Un baiser entre Ori et la sœur aînée. Et il y a aussi le père, vers la fin, qui sort de la chambre de la petite. Mais ça, c'est dans la pièce. Il y a une très grande impression d'inceste, symbolique en tout cas, durant toute la pièce.
La mère est absente.
Et je dirais même les mères, parce que c'est pas possible qu'un frère de 60 ans et une sœur de 25 ans. Donc il y a eu différentes mères dont on ne parle jamais. On n'en parle jamais. Et tout est vraiment mis sur le père. D'ailleurs, la chose la plus tragique de la pièce, c'est que le père perd complètement la mémoire à la fin, qu'il reconnaît même plus sa fille. Cette seconde sœur qui tient un peu comme ça l'église au milieu du village, plus ou moins, elle craque aussi à la fin. Son père, c'est son principal spectateur des émissions. Elle jouait pour son père aussi. Le père n'étant plus là, elle ne sait plus qui est qui. Pour elle, c'est terrible. C'est en fait ça le grand drame de l'histoire quand même. C'est la chute de la deuxième sœur.
Et comment vous traitez My Way, justement, ma route, mon chemin, mon destin?
Dans la pièce, il avait pris Sorrow, je crois, Sorrow. Et je trouve que ça convenait moins bien, parce que c'était... dans la pièce, ça fonctionne très très bien. Je sais pas s'il veut dire le mot vulgaire, mais peut-être oui. Moi, je trouve que c'était difficile de mettre Sorrow là-dedans, avec ma langue. Je voulais quelque chose de plus facile à traiter. Et alors, on a réfléchi à des chansons. Un jour, j'ai dit My Way. Et puis, on s'est rendu compte que My Way est la chanson qui a rapporté le plus de droits d'auteur depuis les 50 dernières années. Donc, il y a un problème d'argent aussi derrière ça. C'est Sinatra, c'est le monde des riches aussi, hein. La mafia aussi, on a décidé My Way. Et My Way est chantée, en fait, par la femme étrangère. Mais elle est chantée par Ori. C'est Ori qui le chante en coulisses. Au micro.
Donc on joue sur la voix féminine, la voix masculine.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait, tout à fait.
L'opéra m'a fait penser aussi à Contes d'hiver, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une question aussi d'enfant dans le Conte d'hiver, disparition, apparition. Et puis, c'est aussi un thème sur la mort, c'est une famille qui s'essaye de se construire et qui est déconstruite.
Oui, c'est juste. Oui, il y a des choses des choses que peut-être qu'on retrouve dans certains thèmes qu'on trouve dans tous mes opéras. Est-ce que vous avez vu le livre de Cécile Ozol? Il y a un livre qui vient de sortir chez Actes Sud sur mes opéras.
Non, je l'ai pas vu.
Non. Pas vu, non. Elle fait ce lien entre un peu tous les opéras, en tout cas à partir de la Ronde. Ce qu'il y a aussi avec une pièce comme Au Monde, moi je ne peux pas tout faire. Quand j'ai lu Au Monde, je dis ça c'est possible, c'est mon aussi facile avec mon univers musical où il y a des secrets, où il y a des choses qui se disent pas et où il y a le trouble, parce que c'est une pièce très troublante en fait, hein. Le trouble, c'est une chose qui m'intéresse à mettre en musique. Le désir, espèce d'érotisme latent que j'aime bien mettre en musique comme dans Ryan.
Et là, il y a Maïwé, mais dans le Conte d'hiver, il y a l'ensemble à Camoun. Donc il y a déjà des intrus, c'est des musiques intrus.
C'est des musiques intrus. Je crois que dans ma langue musicale, ce que je cherche très fort, comment dire, c'est faire une musique qui peut accueillir d'autres musiques, qui est suffisamment ouverte qu'on peut y intégrer un peu ce que je veux si j'ai envie, en travaillant là-dessus pour que ce soit pas complètement en contradiction avec le reste de l'écriture. Donc avoir un ensemble jazz-rock comme dans le Conte d'hiver, c'était pour moi une chose beaucoup plus importante qu'ici My Way, parce que là, je l'ai laissé même improviser. J'ai écrit un début et je leur ai demandé de finir comme ça pour pouvoir tuiler avec l'orchestre. Ici, ce n'est qu'une chanson, un extrait d'une chanson qui vient à trois reprises dans la pièce.
Et vous avez choisi quoi comme orchestre? Habituellement, vous avez fait le grand orchestre dans la Ronde, et puis vous êtes passé à l'orchestre par un. Julie, c'est l'orchestre par un. Et là, vous avez choisi quelle typologie d'orchestre?
Un peu comme la Ronde. Un peu comme la Ronde, la première Ronde. Il y a, parce que la Ronde, il y a une version aussi petite, avec les vents par deux, un ensemble de cordes. C'est symphonique avec en plus des claviers, comme je fais toujours. C'est plus petit que le Conte d'hiver. Le Conte d'hiver, il y a quatre corps, etc. C'est déjà plus gros symphonique, oui.
Et quelle est la difficulté qu'on rencontre pour ce type d'opéra où le texte est extrêmement important, la langue est extrêmement importante, les énonciations, puisqu'on peut pas dire qu'on a, alors je sais pas si vous avez utilisé la dimension mélodique, mais ce que l'on ressent dans les voix, c'est presque une intimité à la Pinter, c'est resserré souvent.
Oui, c'est souvent resserré, oui, c'est vrai. C'est vrai, la langue d'abord, moi ce que je cherche, c'est être en tout cas le plus proche possible du texte, parce que je crois qu'on comprend 88% du texte ici, c'est déjà pas mal. On comprend mieux que Pélias, on dit toujours que Pélias, qui est peut-être mon opéra préféré, qu'on comprend tellement bien, c'est pas vrai. Il faut, alors Pélias, il faut, avec l'orchestre, oulala, il faut faire très attention. À la radio, ça c'est magnifique. Enregistré, c'est magnifique. Mais moi, je veux que le texte soit vraiment projeté dans la salle. Et comme les chanteurs parlent tous relativement bien français dans la distribution, je crois qu'on comprend beaucoup. Et alors, ça, c'est mon premier souci. Que les gens puissent venir, j'aime bien que les gens puissent venir à l'opéra comme ils vont au théâtre. On va voir une pièce, quelque part, hein. Et alors, pour ça, il faut quand même comprendre, en partie. Et alors, pour ce qui est de l'écriture vocale, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas vraiment d'air, mais il y a comme des débuts d'air, toujours. Il y a comme des ariosos, on dit, on dirait qu'un air commence. Parfois, des gens comme ça sont habités d'une grâce, personnages, et ils commencent à chanter comme si... Mais ça ne peut pas durer, je ne fais pas durer. Je fais un air un peu plus long dans Yvonne, qui est l'air de la reine à la fin, où elle lit ses mauvais poèmes... oui, là, il y a vraiment comme un air. Mais ça se mettait bien dans les pièces, parce qu'il y a des poèmes, des poésies que Gombrowicz a écrit qui sont complètement cucu comme ça, et il fallait mettre ça en musique un peu à la Gounod.
Est-ce que vous gardez dans l'opéra la tirade finale qui nous renvoie aux trois sœurs, au destin des trois sœurs?
Oui. Mais c'est-à-dire, on voit les trois sœurs à la fin, oui, c'est ça, oui. Oui. Et on, plus que dans la pièce encore, Joël a insisté là-dessus pour qu'on ait une fin comme ça avec les trois sœurs. Oui.
Mais elle a l'air très positive, cette fin. On dirait presque qu'elle va vers l'idée de s'intégrer complètement au monde économique d'aujourd'hui, au monde libéral.
Et oui, c'est assez terrible. Surtout avec le fils qui a pris le pouvoir. Oui, c'est la tristesse des riches aussi, je crois, quelque part. Moi, je trouve que quand on est triste en musique, quand on est mélancolique en musique, ou quand on est nostalgique en musique, ce qui peut être le cas, il faut toujours qu'il y ait dans la musique une espèce de lumière en plus, une petite lumière qui permet ça. Quand on ne l'aimait pas, on est tout de suite dans le ridicule. Donc il faut taire, ça dit cette phrase, la nostalgie du futur. C'est une chose que moi je ressens. Quand j'ai lu cette phrase de Vitesse il y a quelques années, j'ai dit ça c'est formidable, ça c'est vraiment une chose pour moi. Oui.
Une phrase grandchienne.
Oui, voilà.
Ou viscontienne.
Ou viscontienne, oui, c'est ça, viscontienne, oui.